Bonjour et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones.
Oh, rats.
Cette semaine, nos aventures nous ont conduits dans ces contrées que se disputent Pol Pot et Kim Jong-un, le professeur Von Braun et Big Brother. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui, cap sur la dystopie, je dirais même plus la dystopie vidéoludique.
Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätt ich meinem Anführer zugehört, ich wäre
Nous venons d'entendre une musique extraite de Wolfenstein The New Order, sortie sur les consoles convenables en 2014. Et donc dans ce jeu, donc cette chanson évidemment est une reprise de la chanson iconique de The Animals, ce jeu est une fiction politique qui prend place dans un univers où l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des secrets militaires divers et variés, les nazis ont réussi à construire une bombe atomique qui leur a permis de créer un nouvel ordre mondial nazi. Et nous nous réveillons donc en 1960 en incarnant le personnage du soldat Blaskowitz qui était dans le coma depuis 14 ans, donc en 1946, et nous allons devoir reprendre le contrôle de la planète aux nazis dans ce jeu. Donc on incarne, donc c'est un jeu de tir à la première personne assez basique, sympa à faire, hein, mais du coup assez basique, et qui met en scène des nazis dans des représentations assez pop. On a le personnage, par exemple, assez pop, c'est-à-dire un peu surnazisé.
Oui, c'est-à-dire que les nazis sont vraiment pris comme des personnages de la pop culture, quoi. On va pas expérimenter une dystopie au sens angoissant du terme.
C'est ça.
Disons que peut-être que le nazi serait pris un petit peu comme cette espèce d'altérité radicale qui est un peu l'ennemi idéal du jeu de tir à la première personne.
Puis on oublie aussi toutes ces... Enfin, le jeu met pas en scène toutes les thèses, par exemple, d'Anna Arendt sur la banalité du mal, sur le fait que un nazi, c'est avant tout une personne comme vous et moi, et que le mal, c'est quelqu'un peut être mauvais comme vous et moi. Non, c'est vraiment des personnages vraiment caricaturaux. Enfin, on a par exemple Irene Hengel, qui est commandante de camp d'extermination nazi et qui est un personnage ultra surjoué, qui hurle, qui est sadique. Enfin, c'est quelqu'un de très cliché. Et puis le personnage de Wilhelm Strass, surnommé le boucher, c'est quelqu'un qui... Enfin, il est inspiré... En fait, ces personnages sont inspirés de toutes les représentations les plus extrêmes et les plus hardcore des nazis. Enfin, toutes les expérimentations qui ont été faites dans les camps de la mort, par les médecins de type Mengele. Ce qui est une réalité, hein, je suis pas en train de dire le contraire, mais c'est vrai que ce n'est pas un point de détail. Mais ce qu'il faut, enfin, le jeu oublie aussi que, enfin, le nazisme nous montre que, un méchant, c'est avant tout le mal, c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux que quelqu'un qui vous hurle dessus et essaye de vous tuer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la différence entre le méchant ou le super vilain de fiction et le mal. Comme concept philosophique.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que les nazis dans ce jeu sont vraiment des antagonistes qu'on va devoir trucider comme dans un jeu à la première personne classique. Le jeu va pas nous donner une réflexion sur... Enfin, toute la campagne de com' du jeu était tournée sur quelque chose de très pop culture, hein, comme la chanson qu'on a entendue, qui était une reprise qui a été balancée pendant la campagne de pub du jeu. Et puis on avait plein d'images aussi. Il y avait des images de trailer du jeu qui étaient assez marrantes, mais qui allaient pas plus loin. Où c'était, enfin, étant donné que le jeu commence en 1960, on avait des manifestations hippies en fait qui commençaient, et on a cette il reprenait des codes historiques très connus, enfin des moments historiques très connus. Par exemple, il y a un trailer qui vous savez, enfin, on a déjà vu ça, ce cliché de la manifestante qui met une fleur dans le fusil.
Dans le canon.
Et là, du coup, donc, ça se passe dans le trailer, sauf que juste après, on a un point de vue sur les canons qui tire à vue sans aucune merci, quoi. Donc, en fait, on reste dans un constat qui, certes, transfigure l'histoire et nous donne un regard dystopique sur l'histoire et totalitaire aussi, étant donné que ce sont des nazis, mais on reste dans quelque chose quand même d'assez caricatural.
Il y a une atténuation. Enfin, en fait, le côté fiction délirante, un petit peu pulp, comme tu disais, va conduire paradoxalement à une atténuation peut-être du côté dystopique de la chose, parce que tu parlais de cette image qui est très connue des manifestations contre la guerre du Vietnam, et cette image est aussi reprise dans Watchmen, le film, d'après le roman graphique d'Alan Moore, et cette image en montrant de hors champ les deux antagonistes, c'est-à-dire d'un côté la hippie et d'un côté le policier.
Le nazi, enfin là c'est un nazi du coup.
Là c'est un nazi, mais.
Ah, mais dans Watchmen, pardon.
Ce n'est pas un nazi. Et en fait, et on voit les pétales qui s'envolent au moment où le type tire. Et en fait, ça va contribuer à la construction dans le générique d'une ambiance dystopique. Alors que là, on a l'impression qu'effectivement, ça va être plus une subversion de codes de la pop culture, etc. Mais que le joueur, en sortant du jeu, va pouvoir se sentir très à l'aise. De se dire, tiens, je vais pouvoir réécouter la version originale de House of the Rising Sun. Il va pouvoir se. Et tant qu'il est dans le jeu, il se sent comme un héros sans peur ni reproche, ce qui ne questionne pas sa position de joueur, ni de spectateur, ni de sujet historique.
Ben, on a l'impression que la réflexion, qui reste quand même. Enfin, s'il y en a une, de réflexion, elle est quand même cantonnée au paratexte du jeu, enfin, ce que les Game Studies appellent les paratextes, c'est-à-dire des moments signifiants hors du jeu, par exemple les manuels de jeu, les habillages des bornes d'arcade, toutes les choses qu'il y a autour du jeu qui sont signifiantes mais qui sont pas dans le jeu. Et du coup, enlever toute réflexion sur l'aspect dystopique du jeu et le mettre dans des paratextes, c'est aussi faire l'économie de cette réflexion-là et de vraiment s'axer uniquement sur l'action, quoi. Après, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien, je pense pas qu'il faut juger, mais c'est vrai qu'il expédie, enfin il expédie très rapidement la notion dystopique et tout ce qui pourrait être intéressant à faire sur le totalitarisme, il l'expédie, quoi.
L'organisation totalitaire s'organise à partir d'une fiction centrale, bien souvent une conspiration transformée en réalité agissante par la propagande. Il s'agit d'édifier, même dans des circonstances non totalitaires, une société dont les membres agissent et réagissent conformément aux règles d'un monde fictif. Des organisations de façade entourent les membres du mouvement d'un mur protecteur qui les sépare du monde extérieur, du monde normal. En même temps, elles constituent un trait d'union sans lequel les membres, avant la prise du pouvoir, sentiraient de façon trop aiguë les différences qui séparent leurs croyances de celles des gens normaux, leur propre fiction mensongère et la réalité du monde normal.
Donc, comme le laisse entendre cet extrait de Darren que nous venons d'écouter sur fond de musique totalisante, totalisatrice plutôt, cette pensée nous montre bien quand même qu'un état totalitaire c'est quelque chose de plus complexe que voudrait nous laisser penser Wolfenstein. Et il y a des jeux qui vont essayer d'aller dans cette complexité-là et essayer de nous montrer ce que c'est vraiment, enfin essayer de nous montrer ces mécaniques là et comment est-ce que nous, à travers notre expérience de joueur, on peut vivre ces mécaniques des états totalitaires. C'est le cas par exemple de Papers, Please, donc sorti en août 2013, qui nous fait incarner en fait un douanier à un poste frontière, à un pays fictif qui s'appelle l'Artotska, qui ressemble énormément à l'URSS lors de ses heures les plus sombres. Et du coup, à ce poste frontière, on va devoir ce qui nous semble au début très simple et très répétitif, c'est-à-dire qu'on va tamponner les passeports pour laisser passer ou non les gens, c'est-à-dire qu'on a deux options, soit on les laisse passer, soit on les laisse pas passer. Donc on va intérioriser de plus en plus cette mécanique, et ce qui va être important dans le jeu et dans toute la complexité du gameplay, c'est que à mesure que on va progresser dans le jeu, même si on intériorise ces mécaniques, en même temps, y a des ordres qui viennent de l'État, d'Artotska, pour nous dire ne laissez passer désormais qu'un certain type de citoyen. Maintenant, vous demanderez un certificat médical pour passer. Maintenant, vous demanderez un certificat d'autorisation de travail. Et du coup, de plus en plus, on va avoir de la complexité, de la difficulté à être dans la norme imposée par l'État et dans ce réglage des corps, de savoir ce qu'on doit ou pas, de savoir ou pas ce qu'on doit tamponner, accepter ou refuser. Et du coup, il y a cette complexité-là qui se double en plus de problèmes moraux, parce que des fois, on a des gens qui arrivent au poste frontière et qui font « s'il vous plaît, laissez-moi passer, mais j'ai pas de papier, mais mon mari est de l'autre côté, il est en train de mourir. » Enfin, il y a plein de choix moraux qui permettent d'arriver à une vingtaine de fins différentes, qui permettent de montrer autant de mise en scène dans cet état totalitaire fictif. Et en même temps, de l'autre côté, c'est l'autre aspect du gameplay, c'est qu'on a un peu de gestion, étant donné qu'en plus d'être douanier, d'être un rouage en fait de cet état-là, on est en plus père de famille. C'est-à-dire que dans cet état, on est à la fois oppresseur quelque part et oppressé, parce que on doit arriver à survivre, on doit payer les factures de chauffage, payer le loyer, payer des médicaments si les gens sont malades, payer à manger. Des fois, on est obligé de laisser les gens avoir froid pour pouvoir manger. Des fois, on est obligé de laisser des gens tomber malades pour ne pas avoir froid. Enfin, des fois, il y a et puis évidemment, le but du jeu, c'est de survivre avec toute sa famille à la fin et essayer peut-être de s'échapper avec eux ou d'essayer de survivre en fait.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce jeu, j'ai l'impression qu'il met le joueur face vraiment à l'expérience sensorimotrice que peut faire un sujet en état totalitaire. C'est-à-dire qu'il est partagé entre une espèce de déshumanisation globalisée où on essaye de départir l'homme de tout ce qui peut faire sa réflexion, enfin tout ce qui peut faire de lui l'humain, c'est-à-dire qu'on attend en système totalitaire que l'homme devienne un homme nouveau, parfaitement malléable, et qui rentre dans une espèce de masse qui ne cherche plus que l'expansion et la reproduction, mais qui ne soit plus, un sujet pensant. Et en même temps, il y a des choix moraux qui s'imposent et qui révèlent une nécessité de conscience de fait.
Oui, oui, tout à fait. Et puis cette nécessité de conscience, elle vient aussi de nous joueurs. Enfin, étant donné qu'on a le point de vue sur les deux situations, c'est-à-dire père de famille et rouage d'un état totalitaire, on va avoir ces mécaniques. Évidemment, elles nous questionnent, elles nous poussent à la réflexion et elles nous poussent à nous dire mais attendez, on est en train d'être des oppresseurs dans une société qui nous opprime elle-même. Et donc il y a des choix moraux évidemment qui se font. Et chaque choix moral est conditionné par le fait soit qu'on a une famille, nous aussi, soit que justement l'État nous oppresse et essaye constamment d'affirmer sa fonction totalisatrice en fait.
Et puis comme tu le disais, le gameplay de ce jeu va placer le joueur dans une situation où il va rejouer véritablement ses processus de normation du corps, ou en tout cas ils vont être rejoués sur lui, enfin le joueur est joué autant que joueur, on a l'impression, puisqu'il va être conditionné par des gestes très concrets à faire qui vise à finalement le débarrasser de toute subjectivité. C'est Hannah Arendt encore qui le dit, on la cite beaucoup dans cet épisode, mais qui
elle dit les choses très bien.
Que en fait la politique totalitaire veut transformer l'espèce humaine en vecteur actif et infaillible de la loi. Il veut pas qu'il soit soumis à la loi, mais que son corps même, que dans sa chair, qu'il soit une incarnation de cette loi en fait.
Ben c'est ce qu'on devient, enfin quand on joue à ce jeu, c'est ce qu'on devient. On devient ce rouage et on incarne la loi, parce qu'on a aussi des... Ce qui est assez amusant, c'est que quand on est un bon douanier, c'est-à-dire qu'on fait pas trop d'erreurs et qu'on laisse pas passer des gens qui auraient pas dû passer, on reçoit des petits... ça c'est très procédurier, c'est très état totalitaire. On reçoit des petites insignes où il y a écrit... meilleur douanier du mois ou des choses comme ça quoi. Enfin, il y a quelque chose, on est récompensé en fait pour être un bon rouage dans cet état totalitaire là. Puis même on a des visites d'un chef qui est un peu fantasmé, comme tous ces leaders en fait de dystopie et de d'états totalitaires qui sont un peu fantasmés, comme dans 1984 ou des choses comme ça, un ministre ou quelque chose, un inspecteur,
leader suprême,
et un livre, oui quelqu'un comme ça, enfin plus, pas directement lui mais quelqu'un qui le représente quelque part. Et cette personne en fait a cette force, elle nous fascine autant qu'elle nous terrifie, étant donné qu'elle est fascine au sens fasciste, hein, parce que elle peut à tout moment nous renvoyer et nous faire avoir un game over en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le game over correspond à être envoyé dans le jeu, quoi. C'est assez marrant aussi.
Mais ça qui est intéressant avec ce jeu, on a l'impression que en fait le moment où on sort du jeu, ça reste du jeu finalement. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où on va peut-être éprouver un intense sentiment de soulagement au moment où ça se termine, au moment où... Enfin, je veux dire, il y a vraiment une expérience qui n'est pas forcément une expérience de plaisir de jeu, contrairement à ce qu'on a pu voir dans Wolfenstein, où il y a le plaisir d'être le héros et le héros incontesté, incontestable. Là, on se... Voilà, il y a un effet sur nos propres choix. Il va y avoir vraiment une expérience à la limite de la... du perfectionnisme moral, quoi, jeu à la Cavell, quoi.
C'est très vicieux, parce qu'on est vite devenu un Stakhanov aussi, étant donné que le principe de progression, c'est de laisser passer les gens, et de... Parce que faut savoir où est notre but. Notre but, est-ce qu'il est moral et on veut laisser passer le plus de gens possible, ou est-ce que notre but, il est survivaliste et on veut aider notre famille à survivre? Si on veut aider notre famille à survivre, il faut être un bon rouage de l'État, quoi.
C'est pour ça, c'est à ce niveau-là, peut-être que c'est... Il y a quelque chose de l'expérience limite de laboratoire sur soi-même qu'on peut faire dans ce jeu.
Oui, le jeu nous place face à des choix qui nous permettent de nous réfléchir, ouais, même à la sortie du jeu, quoi.
Et c'est pour ça que le fait peut-être d'interrompre le jeu en plein milieu de partie, ça peut être aussi quelque chose de révélateur et quelque chose de signifiant.
Ah oui, aussi. S'arrêter, en avoir marre. Parce que nous, on peut sortir de cette normation, mais le rouage, lui, ne le peut pas, quoi. Et on se rend compte de ça, quoi.
C'était ma première nuit à Alphaville, mais il me semblait déjà qu'une longue suite de siècles l'avait précédée.
Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres?
Vous posez trop de questions, Monsieur Duant.
Quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie.
Avec Papers, Please, on était du côté d'un jeu qui est entièrement fondé sur une implication très active, et à la fois passive, mais quand même très active, du joueur. Et... là, on va vous parler d'un autre jeu qui a un gameplay radicalement différent, mais qui montre aussi une société totalitaire.
Donc oui, dans ce jeu, on est plutôt du côté de la non-implication, contrairement à Papers, Please. Donc c'est Kopoka, sorti en 2016. Dans ce jeu, on incarne un oiseau qui vole au-dessus et dans une ville dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle s'appelle Kopoka. Et dans cette ville, on peut entendre des conversations, on peut se poser et écouter. Et on comprend vite en fait que nous sommes dans une dictature, avec des affiches collées au mur qui glorifient des tyrans un peu à la manière des affiches de Staline ou Mao. Et puis aussi ces discours, le jeu commence avec un discours de ce qui a l'air d'être une grande leaduse qui commence à dire citoyens et citoyennes de Kopoka, voilà, un nouveau jour se lève, enfin, une propagande tout à fait totalitaire. Et donc dans ce jeu, ouais, on va se balader, on peut choisir d'écouter ou ne pas écouter, et puis on a un gameplay qui est à des lieux et des lieux de cet état totalitaire. On doit ramasser des objets qui brillent, enfin on est une pie, quoi, une pie dans un état totalitaire.
Donc effectivement, c'est un gameplay qui paraît étonnant, mais qui en même temps nous place dans un référentiel qui est vraiment inhabituel, mais qui en même temps nous rapproche d'une ville qui n'est pas sans faire penser à ce qu'on connaît de la Corée du Nord, de ces images qui filtrent difficilement. Donc on a ce point de vue d'animal qui est proche, mais à la fois très lointain par ses préoccupations, et on va un petit peu se départir de tous les a priori qu'on peut avoir sur la dictature nord-coréenne, par exemple, pour rentrer dans une banalité des événements d'un totalitarisme, encore une fois la banalité du mal en quelque sorte, tout en étant une espèce d'être qui gravite autour.
Oui, le jeu, en fait, étant donné qu'on a une vision globale, contrairement à Papers, Please, on a une vision en fait assez unique, un seul personnage, là on va pouvoir se balader dans toute la ville et le jeu va devenir en fait une polyphonie qui va faire résonner aussi bien des discours pro-dictature. Si on se rapproche du fort militaire de la ville, on peut entendre des gens parler dans les couloirs et dire « Oh, est-ce que tu as déjà rencontré la grande leaduse ? Elle dégage une telle aura, c'est incroyable !» Enfin, des gens totalement endoctrinés. Et puis, dans des maisons, on peut entendre parler de gens qui ont disparu ou de gens qu'on reverra plus, sans vraiment plus de raison. Et puis petit à petit se monte en fait un genre de contestation et un genre de révolte qui gronde dans cette petite ville de Kopoka. Et du coup ce gameplay très léger, très aérien et très ouvert, au contraire en fait de la dictature, va nous permettre d'explorer toute cette dictature et de la disséquer en fait en quelque sorte grâce à des paroles en fait qui sont très directes, oui, très, qui sont pas passées à travers un filtre médiatique ou quoi que ce soit et qui nous arrivent en fait comme ça, qui sont des paroles très simples là-dedans quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'on se rappelle de ces articles qui essayent un petit peu de dénoncer l'inaction des pays occidentaux par rapport à la Corée du Nord, notamment en disant mais les camps de concentration de la Corée du Nord sont visibles sur Google Earth, pourquoi on ne fait rien alors qu'ils sont là, les satellites les voient. Et en même temps, il y a cette espèce d'entre-deux du point de vue de l'oiseau qui nous permet d'être proches sans pour autant prétendre savoir ce qui se passe et porter un jugement, mais tout en étant plus à l'écoute que le simple point de vue satellitaire qui finalement ne sert à rien.
Ben oui, parce qu'on entend, c'est-à-dire qu'on a les oreilles de l'animal. Et en même temps, on n'a pas non plus une pensée, étant donné que le gameplay, enfin, on joue vraiment une pie. C'est-à-dire que notre but, c'est de le jeu se termine quand on a trouvé assez d'objets brillants à mettre dans notre nid, sans vraiment plus d'explications sur Kopoka ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que le gameplay, ouais, va nous mettre à distance totalement du totalitarisme, mais en même temps, dans cette distance-là, étant donné que le joueur a plus à progresser, a plus à passer des niveaux, a plus à faire toutes les actions qu'il fait dans les autres jeux, ben, il peut totalement s'abandonner à faire voler son oiseau et surtout à écouter ces gens parler, à écouter tout ce qui se trame dans cette ville de Kopoka, en fait.
Voilà, ce sixième numéro des Aventuriers du Pixel Perdu touche à sa fin.
Nous retournons en République française, ou ce qu'il en reste.
Et on vous laisse avec ce petit extrait de l'état d'exception d'Agamben.
Le totalitarisme moderne peut être défini, en ce sens, comme l'instauration, par l'état d'exception, d'une guerre civile légale qui permet l'élimination physique, non seulement des adversaires politiques, mais de catégories entières de citoyens qui, pour une raison ou une autre, semblent non intégrables dans le système politique. Dès lors, la création d'un état d'urgence permanent, même s'il n'est pas déclaré au sens technique, est devenue l'une des pratiques essentielles des États contemporains, y compris de ceux que l'on appelle démocratiques.